Lundi 22 avril, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, les 5000 employés de la SAQ seront probablement en grève mercredi et jeudi cette semaine, à moins d'avancées significatives à la table de négociation. D'ici là, le syndicat mettra à exécution son mandat de grève obtenu le mois dernier. Le syndicat des employés de magasins et de bureaux dénonce la précarité des emplois. Il fait valoir que près de 70 % d'entre eux sont à temps partiel, sur appel. Ils ne savent jamais combien d'heures ils pourront travailler à la prochaine séquence de paye. Parmi les revendications du syndicat figure l'ajout de postes permanents. Une nouvelle étude démontre que la maltraitance envers les aînés n'est pas unique au CHSLD. La titulaire de la chaire de recherche sur le sujet à l'Université de Sherbrooke, Mélanie Couture, dresse un portrait inquiétant dans certaines résidences privées pour aînés. Dans plusieurs cas répertoriés, les résidents rapportent que la direction ignore carrément leurs besoins et les considère trop capricieux.
Au bout d'un mois, ils se rendent compte que ah, ben, ce qui a été promis, je ne l'aurais pas. Oups, ça, c'est plus cher que ce qu'ils m'avaient dit, et etc. Et l'autre fait là-dedans, c'est que les autres personnes autour, là, même quand on visite, ils ne disent pas. Parce que dans les résidences problématiques, ils ne veulent pas des représailles. Parce que l'étude a démontré qu'il y a des représailles. C'est pas, donc, tu fais une plainte, mais ça se peut que le gestionnaire, l'organisation se rebelle contre toi par la suite.
Des outils de sensibilisation ont été développés pour que les résidents connaissent mieux leurs droits. Le gouvernement a aussi mis en place une ligne d'information et de dénonciation nationale, le 1-888-489-2287. Un voyage à Cuba a tourné au drame pour une famille canadienne d'origine syrienne. Le père est décédé sur place, mais la mauvaise dépouille a été rapatriée. Karl Marchand.
Farah Alaa Jarjour est décédé à Cuba le 22 mars dernier. Depuis, sa famille n'a toujours pas revu sa dépouille. Sa fille Myriam déplore que son corps est resté de longues heures sur la plage et elle déplore le manque d'aide des autorités canadiennes.
Le consulat là-bas au Cuba, le consulat canadien, il n'a pas nous aidé. Il m'a dit, moi, je ne peux rien faire. Vous devez retourner au Canada.
La famille a dû payer 10 000 $ au gouvernement, puis 15 000 $ à une entreprise de services funéraires pour le rapatriement de la dépouille. Quand ils ont ouvert le cercueil, il s'agissait du corps d'un Russe 20 ans plus jeune que Farah Alaa Jarjour. À ce jour, ils n'ont aucune réponse du gouvernement fédéral, déplore Anas Francis, un ami de la famille.
Comment ça vous avez rentré un Russe sans vérifier? Mettons qu'il y avait d'autres choses dans le cercueil. Vous vérifiez pas qu'est-ce qu'il y a dedans?
La dépouille de Farah Alaa Jarjour manque toujours à l'appel et celle du citoyen russe rapatrié par erreur, elle, a déjà été renvoyée en Russie. Ici, Karl Marchand pour Cogeco Nouvelles.
Les débardeurs du port de Montréal ont rejeté massivement la plus récente offre patronale. Avec un taux de participation de plus de 89 % l'offre a été rejetée à plus de 99 % hier en assemblée extraordinaire. Les négociations se poursuivent en vue du renouvellement de la convention collective qui est échue depuis décembre dernier. Le syndicat des débardeurs représente plus de 1 200 membres. Et au golf, on lance davantage sur la prochaine Coupe des présidents. Plus de Canadiens devraient participer à cet important tournoi l'automne prochain. Jérémy Filosa.
Le capitaine de l'équipe internationale, le Canadien Mike Weir, a dévoilé ce matin l'identité de ses co-capitaines pour la Coupe des présidents qui aura lieu du 24 au 29 septembre prochain au Club de golf Royal Montréal. On parle des anciennes vedettes Ernie Els, Trevor Immelman, Jeff Ogilvie et Camilo Villegas. Et contrairement à l'époque où Weir jouait, cette fois, il risque d'y avoir plus d'un Canadien dans l'équipe.
I played five of them and I was the only Canadian all five times. And now, there could be three or four, which would be incredible.
Il espère que leur présence sera suffisante pour rallier les partisans derrière eux.
For sure. You know, we want this to be home country advantage. The fans are still there, and they're rooting on their team, and they're cheering the guys on right to the end. That's what we want for our guys.
Les États-Unis ont remporté les 9 dernières éditions de la compétition, et selon Weir, c'est au tour des verts que ça se joue.
You know, in these competitions, it seems to come down to short game. We're kind of looking for guys with good short games that can putt and hold big putts in big moments.
La prochaine étape, la sélection des joueurs qui feront partie de l'équipe. Jérémy Filosa, Cogeco Nouvelles.
Avril et le soleil sont déjà de retour et les portes de la résidence Seigneur Lepage sont grandes ouvertes pour accueillir de nouveaux résidents. Courez en plus la chance de gagner un mois de loyer gratuit. Prenez congé de la lessive, du ménage et des repas. Installez-vous confortablement dans une résidence pour aînés qui a du cœur. Une résidence où vous vous sentirez tantôt comme au resto, tantôt comme à l'hôtel, mais toujours comme chez vous, à la résidence Seigneur Lepage de Rimouski. Contactez Mélanie au 418-723-0243. Elle vous expliquera les règles de notre concours et l'ensemble des services offerts par notre résidence.
Le samedi 25 mai dès 19h30, soirée de boxe construction Jolimont à l'amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de haut niveau, sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mettant en vedette des boxeurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Billets en vente à partir de $25 sur ticketaccess.net ou sur le site de l'Académie de boxe BSL. Un événement présenté par l'Académie de boxe BSL de Rimouski en collaboration avec la Corporation des événements spéciaux de la ville de Mont-Joli et le Quality Inn de Mont-Joli.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Vous écoutez CFIX 93.3 qui diffuse également à Rivière-du-Loup à la fréquence 103.1.
Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Le
Québec maintenant. 15h06, lundi, le 22 avril. C'est une très belle journée sur le sud du Québec. Merci d'être là. Vous pouvez m'écrire au 98985. On a des bonnes actualités. Beau programme aujourd'hui. D'abord, évidemment, journée historique aux États-Unis. C'est le procès criminel de Donald Trump qui commence aujourd'hui. La semaine passée, ça a été la sélection du jury. C'est la première fois qu'un ex-président des États-Unis est traduit devant les tribunaux dans une affaire criminelle. On va en parler deux fois dans l'émission avec Valérie Beaudoin, pardon. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, va être en studio à 17h. Si vous avez des questions pour lui, vous pouvez m'écrire au 98985. Et Corey Chevry, qui est l'entraîneuse de l'équipe professionnelle de hockey féminin de Montréal, qui a disputé un match historique au Centre Bell samedi, sera avec nous. C'est une femme qui, lors de sa nomination au mois de septembre, ne parlait pas français. Elle était unilingue anglaise. Et là, aujourd'hui, 6 mois et des poussières plus tard, ben, Mme Chevry a fait des progrès vraiment impressionnants en français et l'entrevue va se dérouler en français. J'accueille là-dessus mon ami Jérémy Filosa et mon ami Catherine Beauchamp. Bonjour vous deux.
Bonjour.
Philo, tu vas nous parler de quoi en sport tantôt?
Ouais, on va parler des séries éliminatoires, bien sûr, les séries qui se poursuivent ce soir dans la LNH. Je vais vous parler d'une conférence de presse de la PGA qui avait lieu ce matin à Montréal. J'y étais d'ailleurs. Un nouvel entraîneur-chef, c'est possible pour Soccer Canada très bientôt. Un nom que les gens vont peut-être reconnaître et une vidéo dans le monde du sport qui est rapidement devenue virale cet après-midi.
Parfait. À tantôt, Philo. Oui. Madame Beauchamp, dans vos deux chroniques, vous avez du gros stock, comme on dit, du gros boulot.
Oui, ben on va parler avec Marie-André Labbé, qui est l'autrice derrière la série Stat, qui se termine cette semaine. J'ai dit, on aura la conclusion de la deuxième saison, pas pour la vie, là, évidemment, mais juste pour la deuxième saison. Et donc, elle va passer du temps avec nous. Elle se fait très rare en entrevue, Marie-André Labbé, parce qu'on sait, une vie de moine, c'est
quand
presque
une
athlète.
Quotidienne pour exactement. La télé, là, pas beaucoup de temps pour faire d'autres choses.
C'est vraiment dans la catégorie olympienne. Et Sophie Grégoire Trudeau aussi sera avec nous pour nous parler de son livre « Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer ». Donc, elle va passer un segment avec nous.
Très bien, Kat. Content de te retrouver après tes deux jours de congé.
Merci, moi aussi, je suis contente d'être là.
Jeudi et vendredi. Merci à vous deux. On se retrouve dans les prochains instants. Le Québec
maintenant. Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Le Québec
maintenant. D'abord, pour commencer, d'abord un mot sur cette histoire absolument hallucinante qui a été rapportée par Paul Arcan ce matin, le décès de Monsieur Farage Allah Jarjour. C'est un citoyen québécois à Cuba. Sa fille était chez Paul Arcan ce matin pour parler du drame que la famille vit. En gros, Cuba a envoyé le mauvais corps à celui à Montréal, celui d'un Russe. Le corps de M. Jarjour est introuvable. La famille est désespérée. Et le plus choquant, c'est que on constate l'inutilité totale des services consulaires canadiens à Cuba. C'est pas la première fois que c'est constaté, là, et que c'est dénoncé. Si vous êtes dans le trouble, comme Canadien à l'étranger, et que vous appelez l'ambassade ou le consulat pour avoir de l'aide, ben, nos diplomates sont pas super débrouillards, et c'est ce que cette famille-là constate. Heureusement, l'histoire est partout dans les médias. Peut-être que quelqu'un va se réveiller à Ottawa et demander aux diplomates canadiens à Cuba d'aider un peu cette pauvre famille. On va parler de français à l'émission parce que je le disais tantôt, Corey Chevry, c'est une histoire vraiment intéressante. Elle est l'entraîneuse de l'équipe féminine de hockey professionnel de Montréal. On le sait, il y a eu un match historique en fin de semaine au Centre Bell. Malheureusement, les Montréalaises ont perdu contre Toronto, mais c'était sale comble. C'était une excellente, une très belle vitrine pour le hockey féminin. Madame Chevry va être avec nous dès 16h05. Pourquoi? Parce que c'est une unilingue anglaise. Elle a été nommée en septembre. Et quand elle a été nommée, ben ça a fait des vagues parce que c'est une unilingue anglophone. Et elle a promis, comme beaucoup d'autres personnalités sportives qui sont débarquées à Montréal, elle a promis d'apprendre le français. Sauf que elle le fait pour vrai, contrairement à beaucoup d'autres entraîneurs, à beaucoup d'autres athlètes. En 6 mois, elle a fait des gains appréciables. Non, écoutez, appréciable, c'est trop charitable. Elle a fait des gains impressionnants en français. La preuve, elle va venir ici en studio, Madame Chevry, et on va faire l'entrevue en français. Il sera aussi question avec le chef du Parti québécois de la question du français au Québec à Montréal. Je veux revenir sur un papier hallucinant qui a été publié dans le Journal de Montréal sur le déclin du français. Il y a une journaliste qui s'est rendue à Vaudreuil-Dorion. C'est dans l'ouest, à l'ouest de Montréal. C'est quand même un patelin francophone, Vaudreuil-Dorion. Et elle a rencontré des ados qui fréquentent une polyvalente francophone. Et elle a pas eu de difficulté, la journaliste, à trouver des jeunes qui ne voient pas l'utilité de parler français à l'école. Il semble qu'il y a un problème à l'intérieur des murs de l'école. Beaucoup de jeunes qui parlent pas français, qui parlent anglais entre eux, parfois même quand ils sont francophones d'origine, et qui disent, écoutez, pourquoi on parlerait français hors des salles de cours? Les jeunes ont dit à la journaliste, on comprend, là, parler français pendant nos cours, c'est correct, mais dans les couloirs, arrêtez de nous dire quelle langue on devrait parler. Et je vais citer une jeune qui a parlé à la journaliste, a dit, c'est un peu ridicule de nous empêcher de parler anglais à l'école. La plupart d'Internet est tout en anglais, de toute façon. Et si tu ne connais pas l'anglais, surtout au Québec, t'es fait. Tu pourras pas avancer. La jeune femme est une francophone d'origine. C'est pas quelqu'un dont les parents sont nés ailleurs, par exemple. Donc, il y a ça, toujours sur la question du français. Il y a le bonjour Aïe qui gagne du terrain à Montréal selon l'Office québécois de la langue française. 2010, il y a 84% des commerçants qui accueillaient les clients en français. 2023, ça a baissé de 13 points de pourcentage. On est à 71%. Et le bonjour aïe, lui, la formule d'accueil là, dans les deux langues, ben ça a augmenté de 8 points de 2010 à 2023 pour s'établir à 11,9%. Et l'Office québécois de la langue française là, qui explique que les plaintes pour justement la langue d'accueil dans les commerces à Montréal a plus que triplé. On va parler de tout ça avec Paul Saint-Pierre Plamondon à 17h, évidemment. D'autres sujets. Ukraine, ça a été une victoire politique et peut-être même existentielle pour l'Ukraine au Congrès américain. Ça s'est passé en fin de semaine. Les isolationnistes du Parti républicain ont mordu la poussière. On sait qu'il y a une poignée de Trumpistes là, qui jouaient avec les procédures pour empêcher un vote sur l'aide à l'Ukraine. Mais finalement, c'est passé. Il y a eu une alliance entre républicains et entre démocrates, comme le veut, disons, le système américain quand il fonctionne bien. Et c'est un train de mesure de 60 milliards qui va être envoyé en Ukraine après des mois de tergiversation. Donc, c'est un soupir de soulagement en Ukraine. On va en parler avec le correspondant à Kiev, Stéphane Sion, dans quelques minutes. Et parlant, justement, des États-Unis, c'est un jour historique aujourd'hui parce que c'est le premier jour du procès criminel de Donald Trump pour des paiements illégaux. On le sait, c'est ce qu'on lui reproche à une ancienne maîtresse. Valérie Beaudoin, évidemment, va en parler dans sa chronique de 17h40, mais c'est tellement historique qu'on l'a fait rentrer à l'émission un peu plus tôt. Salut Valérie!
Salut Patrick.
Peut-être nous faire le résumé de cette première journée officielle du procès de Donald Trump à New York.
Oui, bien, tout d'abord, c'était les instructions aux membres du jury. On le sait, ils ont été sélectionnés. Là, les 12 membres du jury, la semaine dernière, on s'en est parlé. Ça a pris quelques jours pour le faire. Donc, comment ça fonctionne? On a rappelé que Trump était innocent jusqu'à preuve du contraire. On a parlé d'objectivité, d'être impartiaux. Alors, c'est vraiment ça qui est ressorti de la matinée. Et par la suite, c'était les déclarations d'ouverture. Ça veut dire que les procureurs et la défense, expliquent ça va être quoi leur stratégie. Pourquoi, dans le cas des procureurs, Donald Trump est coupable de 34 chefs d'accusation accusation, tu l'as dit, pour des paiements illégaux à Stormy Daniels. Et du côté de la défense, ce qu'on dit finalement, c'est que tout ça, là, ça devrait même pas avoir lieu parce qu'il est innocent et ils vont le prouver à travers ce procès qui devrait durer 6 semaines. Et ça va vraiment vite, là, Patrick, sincèrement, le procès jusqu'à maintenant, là, le juge niaise pas, je vais utiliser cette expression-là, parce qu'on a déjà entendu un premier témoin, David Recker, qu'on appelait le roi des tabloïdes.